Recouvrant tout à coup ses forces, il se mit à gambader et à danser un pas espagnol en s'accompagnant d'imaginaires castagnettes. Ah, je les ai ! Je les ai ! Je les ai ! Au bercail, les africaines ! Ah, Barnett, quel grand bonhomme tu es ! Ah, y a pas de Barnett au monde ! Y en a qu'un ! Le sauveur de Béchou ! Ah, Barnett, tu mérites une statue ! Barnett, tu es un héros ! Mais comment diable as-tu pu réussir ? Raconte, Barnett ! Une fois de plus, la façon dont Barnett avait mené les événements stupéfiait l'inspecteur Béchou. Stimulé par sa curiosité professionnelle, il demanda « Et alors, Barnett ?»«
Alors quoi ?»«
Eh oui ! Comment as-tu démêlé tout cela ? Où se trouvait le paquet ? Dans la maison, sans y être, aurais-tu dit ?»«
Et hors de la maison, tout en y étant. » »«
Raconte ! » !»«
Tu donnes ta langue au chat ?»«
Tout ce que tu voudras !» !»«
Et tu n'auras plus avec moi pour des peccadilles, ces airs de réprobation qui me désolent ?» mais qui me font croire parfois que j'ai quitté le droit chemin.
Raconte, Barnett !
Ah, quelle histoire charmante ! Bien que je t'en avertisse, mon vieux Béchou, tu n'auras aucune désillusion. Je n'ai jamais rien rencontré de plus joli, de plus inattendu, de plus spontané et de plus roublard, de plus humain à la fois et de plus fantaisiste. Et c'est tellement simple que toi, Béchou, un bon policier, cependant, muni de qualités sérieuses. Tu n'y as vu que du feu.
Enfin, parle ! Mais comment le paquet titre a-t-il quitté la maison ?
Sous tes yeux, ineffable Béchou. Et non seulement il a quitté la maison, mais il y est rentré. Et il l'a quitté deux fois par jour. Et il y est rentré deux fois par jour. Et sous tes yeux, Béchou, sous tes yeux candides et bénévoles. Et pendant 10 jours, tu t'inclinais devant lui avec des salutations respectueuses. Un morceau de la vraie croix passait devant toi. Pour un peu, tu te serais mis à genoux.
Allons donc, c'est absurde, puisque tout était fouillé.
Tout était fouillé, Béchou, mais pas cela. Les colis, les cartons, les sacs à main, les poches, les chapeaux, les boîtes de conserve et les boîtes à ordures, oui. Mais pas cela. Aux gares frontières, on visite les voyageurs, mais on ne visite pas la valise diplomatique. Ainsi, tu as tout visité, sauf cela.
Quoi cela ?
Je te le donne en 1000.
Parle, crayon d'un chien !
Le portefeuille de l'ancien ministre.
Que dis-tu, Barnett ? Tu accuses le député Touffémont ?
Tu es fou ! Est-ce que je me permettrais d'accuser un député ?
A priori, un député ancien ministre est insoupçonnable. Et parmi tous les députés et tous les anciens ministres, et Dieu sait si ça pullule, je considère Touffémont comme le plus insoupçonnable. N'empêche qu'il servit de receleur à Madame Alain.
Complice en ce cas. Le député Touffémont serait complice.
Pas davantage.
Alors, qui accuses-tu ?
Qui j'accuse ?
Ah oui !
Son portefeuille. Et posément, gaiement, Barnett expliqua. Le portefeuille d'un ministre, Béchou, est un personnage considérable. Il y a, de par le monde, Monsieur Touffémont, et il y a son portefeuille. L'un ne va pas sans l'autre, et chacun est la raison d'être de l'autre.
Tu n'imagines pas Monsieur Touffémont sans son portefeuille.
Mais tu n'imagines pas non plus le portefeuille de Monsieur Touffémont sans Monsieur Touffémont. Ils ne se séparent jamais l'un de l'autre. Seulement, il arrive que Monsieur Touffémont pose quelquefois son portefeuille à côté de lui, pour manger, par exemple, ou pour dormir, ou pour accomplir tel geste de la vie courante. Dans ces moments-là, le portefeuille de Monsieur Touffémont prend une existence personnelle et peut se prêter à des actes dont Monsieur Touffémont n'est nullement responsable. C'est ce qui est arrivé le matin du vol.
Béchou regardait Barnett. Où voulait-il en venir ?
Barnett répéta : C'est ce qui est arrivé le matin où tes 12 africaines ont été subtilisées. La concierge, affolée par son vol, bouleversée par le péril qui approche, ne sachant comment se débarrasser d'un butin qui va la perdre, avise tout à coup sur sa cheminée, ô miracle, le portefeuille de M. Touffémont, tout seul. M. Touffémont vient d'entrer dans la loge pour prendre son courrier. Il a déposé son portefeuille sur la cheminée et décachette ses lettres, tandis que Nicolas Gassir et toi, Béchou, vous lui racontez la disparition des titres. Alors, une idée de génie, oui, de génie, il n'y a pas d'autre mot, illumine Madame Alain. Le paquet de titres, lui aussi, est sur la cheminée, à côté du portefeuille et caché sous des journaux. On n'a pas encore fouillé la loge, mais on va la fouiller et découvrir le poteau rose. Pas une minute à perdre. Vivement, en quelques gestes, tournant le dos au groupe qui discute, elle ouvre le portefeuille, elle vide de ses papiers l'une des deux poches à souffler et elle y enfourne le paquet de titres. C'est fait. Personne n'a rien soupçonné. Et quand M. Touffémont se retire, son portefeuille sous le bras, il s'en va avec tes 12 africaines et tous les titres de Gassir. Béchou n'éleva pas la moindre protestation. Lorsque Barnett affirmait avec un certain accent de conviction définitive, Béchou se soumettait à l'irréfutable vérité. Il croyait, il avait la foi.
J'ai vu, en effet, ce jour-là, une liasse de papiers et de rapports. Je n'y ai pas fait attention, mais ces papiers et ces rapports, elle a dû les rendre à M. Touffémont.
Moi, je ne le pense pas. Plutôt que d'attirer sur elle les soupçons, elle les aura brûlés.
Mais il a dû les réclamer, lui.
Non.
Comment ? Il s'est pas aperçu de la disparition de cette liasse de documents ?
Pas plus que de la présence du paquet de titres.
Mais et quand il a ouvert son portefeuille ?
Il ne l'a pas ouvert. Il ne l'ouvre jamais. Le portefeuille de Touffémont, comme celui de beaucoup d'hommes politiques, n'est qu'un trompe-l'œil, une contenance, une menace, un rappel à l'ordre. Mais s'il l'avait ouvert, il aurait réclamé ses documents et restitué les titres. Or, il n'a ni réclamé les uns, ni restitué les autres.
Cependant, quand il travaille...
Il ne travaille pas. On n'est pas obligé de travailler parce qu'on a un portefeuille. Il suffit même d'avoir un portefeuille d'ancien ministre pour ne plus travailler. Un portefeuille représente le travail, la puissance, l'autorité, l'omnipotence et l'omniscience. Lorsque Touffémont, hier soir, à la Chambre des députés, j'y étais, donc je parle en connaissance de cause, a déposé sur la tribune son portefeuille d'ancien ministre, le ministère s'est senti perdu. Que de documents accablants devait contenir le portefeuille du grand travailleur ? Que de chiffres, que de statistiques ! Touffémont le déplia, mais ne tira rien de ses deux poches gonflées. De temps à autre, tout en parlant, il appuyait la main sur le portefeuille avec l'air de dire « Tout est là !» Or, rien n'était là que les 12 africaines de Béchou, les titres de Gassir et de vieux journaux. C'était assez. Le portefeuille de Touffémont fit tomber le ministère.
« Mais comment sais-tu ?»
Parce qu'au sortir de la chambre, à 1 heure du matin, comme il s'en revenait chez lui à pied, Touffémont fut heurté maladroitement par un quidam et s'étala tout de son long sur le trottoir. Un autre individu, complice du quidam, ramassa le portefeuille et eut le temps de fourrer un paquet de vieux papiers à la place des titres, qu'il emporta. « Ai-je besoin de te dire le nom de ce deuxième individu ?» Béchou rit de bon cœur. L'histoire lui semblait d'autant plus plaisante, l'aventure de Touffémont d'autant plus savoureuse, qu'il sentait dans sa poche les 12 africaines. « Voilà tout le secret, vieux camarade !» Et c'est pour arriver à découvrir ces vérités pittoresques, pour respirer l'air de la maison et pour me documenter, que j'ai dicté mes mémoires et pris des leçons de flûte. Semaine charmante, flirts au troisième étage et divertissements variés au rez-de-chaussée. Gassir, Béchou, Touffémon, petit pantin dont je tirais les ficelles. Ce qui m'a donné le plus de mal, vois-tu, c'est d'admettre que Touffémon ignorait les coupables agissements de son portefeuille et qu'il trimbalait, à son insu, tes 12 africaines. Cela, ça me dépassait. Et la concierge, donc, quelle surprise pour elle! En son fort intérieur, elle doit considérer Touffémon comme le dernier des escrocs, puisqu'elle croit que Touffémon s'est appliqué 12 africaines et le reste du paquet. Bougre de Touffémon. Dois-je le prévenir? À quoi bon? Qu'il continue donc à transporter ses vieux journaux et à dormir sur son portefeuille. Pas un mot de cette histoire à personne, Béchou. Sauf à Gassir, bien entendu, puisqu'aussi bien je dois le mettre au courant en lui rapportant ses titres.
Quel titre?
Mais les titres qui lui appartiennent et que tu as trouvés dans la serviette de M. Touffémon.
Ah ça, mais tu es toqué, Béchou. Tu t'imagines que M. Gassir va rentrer en possession de ses titres?
Dame!
Barnett frappa la table du poing et, subitement courroucé, sais-tu ce que c'est que ton Nicolas Gassir, Béchou? Une fripouille, comme le fils de la concierge. Oui, une fripouille. Il volait ses clients, Nicolas Gassir. Il jouait avec leur argent. Pique cela, il se préparait à le barboter.
Tiens, voilà son billet de première classe pour Bruxelles, daté du jour même où il avait retiré de son coffre le paquet de titres, non pas pour les déposer dans une banque, comme il l'a prétendu, mais pour filer avec. Hein? Qu'en dis-tu de ton Nicolas Gassir?
Béchou n'en disait rien. Depuis le vol des 12 africaines, le niveau de sa confiance en Nicolas Gassir avait singulièrement baissé. Mais tout de même, il observa.
Sa clientèle n'en est pas moins composée de braves gens. Est-il juste qu'ils soient ruinés? Mais ils ne le seront pas, fichtre non! Je n'accepterai jamais une pareille iniquité. Eh bien?
Eh bien,
Gassir est riche. Et il n'a plus le sou.
Erreur. D'après mes renseignements, il a de quoi rembourser ses clients et au-delà.
Crois bien que, s'il n'a pas porté plainte dès le premier jour, qu'il ne veut pas que la justice mette le nez dans ses affaires. Mais menace-le de prison. Tu le verras se débrouiller.
De l'argent. Il est millionnaire, ton Nicolas Gassir.
Et le mal qu'il a fait, c'est à lui de le réparer, non pas à moi.
Ce qui veut dire que tu as l'intention de garder...
De garder les titres?
Oh, jamais de la vie. Ils sont déjà vendus.
Oui, mais tu gardes l'argent.
Pas un instant, je ne garde rien.
Alors qu'en fais-tu?
Je le distribue.
À qui?
À des amis dont le besoin... Bah, des œuvres intéressantes que je subventionne.
Ah, n'aie pas peur, Béchou, l'argent de Nicolas Gassir sera bien employé.
Béchou n'en doutait pas.
Cette fois encore, l'aventure se terminait par une mainmise de Barnett sur le magot. Barnett châtiait les coupables et sauvait les innocents, mais n'oubliez pas de se payer. Charité bien ordonnée commence par soi-même.
L'inspecteur Béchou rougit. Ne pas protester, c'était se rendre complice.
Mais d'autre part, il sentait dans sa poche le précieux paquet des 12 africaines, et il savait que sans l'intervention de Barnett, elles eussent été perdues. Était-ce le moment de se fâcher et d'entrer en lutte?
Que se passe-t-il? Tu n'es pas content?
Mais si... Ah, je suis enchanté.
Alors, puisque tout va bien, souris.
Béchou sourit lâchement.
À la bonne heure. Ah, c'est un plaisir de te rendre service, et je te remercie de m'en avoir donné l'occasion. Maintenant, mon vieux, séparons-nous. Tu dois être très occupé, et moi, j'attends la visite d'une dame.
Et adieu. À bientôt.
Béchou sortit, enchanté comme il disait, mais la conscience mal à l'aise et résolu à fuir le damné personnage.
Dehors, au tournant de la rue voisine, il avisa la jolie dactylographe, qui était certes la dame attendue par Barnett. Deux jours plus tard, d'ailleurs, il aperçut Barnett au cinéma, en compagnie de la non moins jolie Mademoiselle Aveline, professeure de flûte.